Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une petite bergère dont la mémoire a traversé les siècles au point que l'Église l'a fête aujourd'hui. Une petite fille à la main atrophiée, la peau marquée de laides et écrouelles, une bergère pieuse à la vie des plus discrètes. Une femme des classes moyennes de la sainteté, pour reprendre une expression chère au pape François, une femme qui nous confond tous, ou presque, qui nous fait regarder nos souliers, comme on dit, une vie qui a laissé un parfum venu d'en haut. À la découverte de, ou à la redécouverte de Saint-Germain de Pibrac, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler, allez, honneur aux dames. Anaïs Poncin, vous êtes étudiante et agent d'accueil au sanctuaire Saint-Germain de Pibrac l'été. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Michel Castin, vous êtes laïque et auteur d'ouvrages, entre autres « Les 10 commandements aujourd'hui, le chemin de la joie infinie » paru aux éditions Saint-Augustin. Bonjour.
Bonjour.
Merci de venir ce matin nous faire découvrir ou redécouvrir cette figure. Alors probablement que ceux qui habitent à l'ouest de Toulouse la connaissent bien, les Toulousains probablement aussi, mais comme nous diffusons loin, d'autres ont peut-être l'idée d'un pèlerinage ou d'une belle figure à découvrir, et il y en a de nombreuses dans notre région. Saint-Germain de Pibrac, alors on va essayer de re-raconter sa vie. Je dis re parce qu'on en parle de temps en temps à cette antenne. On essaiera de voir en quoi elle peut nous parler, à nous, à chacun d'entre nous, et peut-être en ces temps si particuliers. Et puis vous nous ferez, Anaïs, une petite balade virtuelle pour nous donner envie d'aller la voir. Je commencerai par cette question simple en reprenant vos propos. Jean-Michel Castin, dans un article, je crois que vous aviez écrit, entre autres sur elle, « C'est le génie de Dieu que de venir habiter les choses ordinaires et de les transfigurer de l'intérieur ». Vous disiez ça à propos de Saint-Germain. Qu'est-ce que vous entendiez par là ?
Disons que les saints vivent en communion avec Dieu constamment, quoi, je veux dire. Donc, que ce soit dans les jours ordinaires ou lors des grandes fêtes, ils sont toujours avec lui. Et c'est vrai que c'est de là que cette communion avec Dieu qui fait qu'ils sont devenus des saints, quoi.
Anaïs Poncin, pour cette question d'ouverture, vous êtes étudiante, j'ai cru comprendre, mon petit doigt m'a dit que vous étiez étudiante à Sciences Po Bordeaux. Quand on a votre âge, donc la vingtaine, une figure comme Saint-Germain de Pibrac, on se dit, ça n'est pas très, très à la mode, vous y voyez pourtant, on va dire, une forme d'exemple.
Alors c'est à la fois Saint-Germain, c'est un peu une Cendrillon. Elle a vécu, c'est une petite bergère qui a été un peu traumatisée par sa marâtre. Dans notre imaginaire, c'est donc une vie qui ne nous appelle pas forcément.
Qui ne fait pas rêver, on va dire.
Non, voilà, on ne s'identifie pas forcément à elle. Elle a vécu au XVIe siècle. Mais nous sommes tout de suite... interrogé et surpris par une certaine familiarité avec ce qu'elle a vécu, des souffrances ou des épreuves qu'elle a traversées et que nous pouvons traverser nous aussi aujourd'hui au XXIe siècle.
Donc on entend que voilà, elle vous parle aussi, on va le découvrir au long de cette émission. Alors si on se plonge dans sa vie, donc cette jeune femme, je dis ça parce qu'elle est décédée donc à l'âge de 22 ans, sauf erreur de ma part, est née en 1575 à Pibrac, c'est donc à l'ouest de Toulouse. Allez, on commence avec vous, Anaïs Poncin. Qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce qu'on sait, on va dire déjà, de son origine familiale, de son milieu, avant de détailler peut-être les difficultés relationnelles qu'elle avait avec sa belle-mère ou quelle a été sa vie.
Alors, c'est simple, on sait très peu de choses de Saint-Germain. C'est une petite bergère de Pibrac. On ne sait pas si c'est fille d'un premier mariage ou qu'elle a été adoptée. On dit souvent que c'est la fille de du cousin qui possède une métairie à Pibrac. Ce cousin s'est remarié avec Armande Rajols, qui a, elle, trois enfants. Et Saint-Germain est tout de suite mise à l'écart.
Elle n'a pas de frères et sœurs, du premier mariage de son père.
Non. Non.
D'accord, et on ne sait rien de sa mère, c'est pareil non plus.
Non, on ne sait rien de sa mère.
Donc, son père se remarie en l'occurrence, donc, ça, elle tombe mal. On dit que sa belle-mère était une marâtre, donc de fait, ça ressemble un peu à certains contes de fées. Ça veut dire quoi, on sait en fait
Alors, on sait qu'elle était, était mise à l'écart. Donc, en fait, elle est née infirme d'une main. Elle avait une malformation. Et elle est née aussi avec des écrouelles. Donc, c'est des abcès qui se trouvent au niveau du cou. Donc, elle a tout de suite été...
L'abcès purulent, hein, j'ai regardé ce matin.
Voilà, que les rois de France guérissaient, notamment le jour de leur sacre.
Exactement. Voilà. Il a imposé les mains. Enfin, on espérait qu'il guérissait.
Voilà, oui, ça marchait.
Donc, avec ses... enfin, elle est née avec donc, cette infirmité qui l'a mise à l'écart, en fait, des autres enfants. Et la marâtre, donc, à l'âge de 8 ans, a confié donc, le troupeau familial de brebis à Germaine. Et elle dormait donc, dans la bergerie.
Voilà, elle dormait dans une soupente.
Voilà, dans la soupente, c'est-à-dire en dessous de l'escalier, comme un chien domestique. Hein.
Voilà, et puis elle était tenue à l'écart.
Sa plus grande souffrance a été d'être tenue à l'écart du reste de la famille.
Donc, atteinte d'écrouelle, de scrofule, c'est un peu semblable, hein, c'est des abcès aussi purulents sur la peau, et donc de tuberculose, ai-je lu aussi. Cette jeune fille qui est donc une bergère, et alors souvent on a l'impression que Dieu a une préférence pour les bergers, pour les bergères.
C'est vrai.
Elle n'a pas vu la Vierge, elle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de sa vie avant de parler de sa mort, Jean-Michel Castaing? Qu'est-ce qu'on sait d'autre de son existence?
Elle gardait le troupeau près de l'église paroissiale. Elle traversait le Courbet pour aller à la messe chaque jour, en ces temps où communier fréquemment n'était pas fréquent. Enfin, n'entrait pas dans les mœurs. Effectivement, elle allait à la messe tous les jours. Je pense qu'elle devait communier tous les jours.
Donc on peut imaginer que son quotidien, c'était de vivre au milieu des moutons,
oui.
Dormir dans cette soupente, être à l'extérieur la plupart de la journée,
voilà,
faire l'aller-retour pour aller à la messe.
Voilà, oui.
Et après,
à la messe, disons qu'elle est à la messe tout en gardant les troupeaux. Bon, elle mettait sa quenouille, elle la plantait. Elle laissait Dieu au soin de garder son troupeau le temps qu'elle aille à la messe, tout ça. Elle retraversait le Courbet, bon, et ensuite, elle revenait.
On dit aussi qu'elle était très bonne avec les pauvres et qu'elle elle parlait de Dieu assez souvent. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Anaïs Ponsin?
On raconte un de ses premiers miracles, c'est qu'elle donnait son pain aux pauvres. Et donc la marâtre l'a surpris. On raconte qu'elle volait peut-être, la marâtre pensait qu'elle avait volé, puisqu'elle donnait son pain aux pauvres et que Germaine n'en avait pas. Et donc c'est un de ses premiers miracles, puisque la marâtre arrive devant Germaine et lui dit: qu'est-ce que tu as dans ton tablier? Qu'est-ce que tu caches? Et donc Germaine ouvre son tablier, ce ne sont pas des morceaux de pain qu'elle découvre, mais des pétales de rose. Donc c'est un des premiers miracles, et donc elle était très aimante et très, très pieuse et très généreuse.
On peut dire aussi à propos des miracles, puisque vous parliez de la quenouille, c'est, la quenouille c'est tout simplement ce bâton de berger, hein, c'est ça, hein. Donc elle le plantait dans le sol, et dit-on, donc les moutons étaient gardés ainsi et étaient protégés. Un autre miracle peut-être qu'on connaît de son vivant, pour le peu qu'on connaît de sa vie, c'est donc la fois où elle a traversé le Courbet, qui est ce petit cours d'eau, racontez-nous Jean-Michel.
Voilà,
ouais,
disons que le Courbet c'est un petit cours d'eau, oui, qui traverse Pibrac et qui se trouvait entre l'église paroissiale et puis le lieu où elle gardait les moutons. Et donc effectivement un jour il a été en crue, elle ne pouvait pas le traverser, et Dieu lui a fait la grâce de faire refluer les eaux de la même façon qu'il avait fait refluer les eaux au peuple hébreu pour qu'il traverse la mer Rouge. Donc on peut y voir une sorte de Pâques, c'est-à-dire que Germaine passe du monde de la persécution qui était celui de sa famille, de sa marâtre, au monde de la libération qui était symbolisée, qui était l'Église, quoi, je veux dire, aller retrouver Jésus-Christ.
Alors, on ne sait pas grand-chose de plus, c'est pas pour autant que l'émission se finit, ni l'histoire à propos de Germaine, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est comme les grandes histoires d'amour, on ne sait pas grand-chose dans le fond, parce que l'essentiel est secret. Ce qu'on sait après, c'est que, d'une certaine manière, Dieu a voulu que l'on parle d'elle, en tout cas si on a la foi, puisque en 1544, donc 43 ans après sa mort, on retrouve donc son corps intact sous les dalles de l'église. Est-ce qu'on a des traces? Anaïs Ponsin, vous êtes la fille du responsable des pèlerinages offerts de ma part au sanctuaire Saint-Germain de Pibrac. Est-ce qu'on a, je sais pas, des traces qui authentifient ce corps intact? Bref, quand on le dit, ce n'est pas en l'air?
Alors, on va dire que nous avons des traces donc au XVIIe siècle, donc en décembre 1644, donc le fossoyeur Guillaume Cassé et son aide prennent la pioche et essaient d'enlever les dalles pour enterrer une personne. Et là,
Parce que donc elle était enterrée dans l'église.
Oui,
hein.
Elle était enterrée dans l'église, mais on ne sait pas exactement où dans l'église. Hein. Et donc là, j'ai un corps parfaitement donc observé, intact. Donc on raconte même que la pioche a égratigné donc le bout du nez, donc, et on a vu apparaître une lueur rouge de sang. Et donc, ce sont deux anciens du village qui vont authentifier ce corps en disant « Mais oui, c'est la petite Germaine, c'est la petite Bigotte, on l'appelait comme ça, la petite Manchotte qui venait à la messe tous les jours. » Donc, c'est comme ça qu'on a authentifié son corps.
Alors, ce qui est incroyable, c'est que donc on découvre son corps intact en 1644. Et j'ai vu que c'est juste à partir donc de 1700 et quelques, voire même un siècle plus tard, qu'on commence réellement à s'activer et à faire en sorte qu'à Rome, son cas soit étudié. On se demande en fait ce que son corps est devenu aussi pendant un siècle. Ça, je ne sais pas si on le sait. On le sait, Anaïs Ponsin, pendant un siècle, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors,
en fait
donc en 1644, on découvre son corps. À ce moment-là, on commence à la vénérer. C'est une sainte qu'il y a à Pibrac. Ensuite, en 1661, donc le vicaire général donc de l'archevêché de Toulouse constate que le corps est toujours bien conservé. Mais en fait, ce qui va se passer jusqu'à la Révolution française, le corps va être détruit à la chaux vive. Donc en 1661, on découvre ce corps intact. Le chanoine Jean Dufour donc constate ce miracle et ouvre un dossier. Mais il meurt en 1673, donc la cause n'avance pas. Ensuite, en 1698, Pibrac accueille Monseigneur Colbert, donc archevêque de Toulouse, qui décide d'ouvrir une enquête. En 1700, il ne s'est toujours rien passé. Monsieur Lespinès rencontre l'abbé Morel, vicaire général de Monseigneur Colbert, donc qui décide de venir à Pibrac aussi, et qui constate aussi donc l'extraordinaire conservation.
Donc après, donc il y a un dossier donc qui est présenté à Rome, et donc petit à petit l'Église s'y intéresse. En tout cas, ce qu'on entend dans ce que vous racontez, c'est que son corps donc intact était probablement exposé à la vénération des fidèles et commençait donc déjà une grande dévotion autour de cette sainte. Alors cette sainte, puisqu'elle a été déclarée comme telle, donc elle a été déclarée bienheureuse en 1854, c'est-à-dire béatifiée, et en 1867 donc elle a été canonisée. Est-ce qu'on peut dire aussi l'un ou l'autre miracle, alors peut-être pas tous, puisqu'il faut toujours des miracles post-mortem pour que soit authentifiée la sainteté, c'est comme des signes venus d'en haut, en tout cas c'est ce que croient les chrétiens. Je ne sais pas si vous deviez l'un et l'autre citer un ou deux miracles, Jean-Michel Castin aussi.
Mais il y a le miracle de la communauté du Bon Pasteur à Bourges, c'était une communauté religieuse qui commençait à manquer de pain, c'était au 19e siècle, et la supérieure avait entendu parler de Sainte-Germaine de Pibrac, dont la réputation commençait à se diffuser dans toute la France. Et donc, elle a dit aux sœurs, écoutez, bon, on n'a plus de pain là, maintenant on est devant au pied du mur, on va prier cette sainte qui est une amie de Dieu, on va se confier à son intercession pour qu'elle fasse en sorte qu'on ait de nouveau du pain, qu'on puisse continuer à vivre. Et donc, elle a prié et automatiquement, et miracle, les pains se sont multipliés. Et automatiquement, ce miracle a fait en sorte que la supérieure l'a fait connaître à l'Église universelle. Et ça a été un fait générateur pour que le Germaine accède sur les autels.
On peut imaginer, oui, qu'elle a été frappée et qu'elle ait voulu en parler à d'autres. Est-ce que vous auriez un autre miracle à citer, Anaïs Ponsin?
Alors oui, il y a deux autres miracles, dont un donc de Jacquette Catala. Donc c'est une petite fille qui est atteinte de rachitisme. On ne peut pas la soigner, les médecins sont très défaitistes, mais un jour elle prie Germaine, et un jour elle se lève pendant le Sanctus et n'a pas du tout n'a plus de symptômes, et embrasse sa mère en disant « Maman, je suis guérie ».
Ça, c'est un premier, vous vouliez en citer un deuxième?
Ensuite, il y a le miracle de Philippe Luc aussi qui était malade et qui a été guéri donc par Germaine.
Alors, des miracles, il y en a eu, nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui se confient encore à son intercession. Est-ce qu'on sait combien il y a de personnes qui passent au sanctuaire Sainte-Germaine de Pibrac par an, Anaïs Ponsin?
Alors, on sait exactement, enfin, on connaît le nombre de pèlerins qui passent pour les fêtes de Sainte-Germaine. On n'a pas de nombre sur l'année, mais on observe qu'il y a de plus en plus de personnes qui passent au long de l'année. Là, on a moins de personnes qui viennent aux fêtes de Sainte-Germaine, mais des pèlerins qui sont très intéressés et qui viennent tout au long de l'année.
Voilà, Saint-Germain, donc, que l'on fête aujourd'hui. La fête de Saint-Germain, c'était donc samedi, dimanche et ce lundi. Cette année, les fêtes sont, on va dire, revues à la baisse pour les mesures sanitaires que vous connaissez. Avant qu'on fasse une première pause, pour ceux qui, par hasard, auraient le temps d'y filer, il y a une messe à 10h30 au sanctuaire, donc messe présidée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse. Et cet après-midi, il y aura un temps d'adoration, mais il n'y aura pas cette année de procession des reliques. Allez, on finit juste sur un mot sur les reliques, puisqu'on peut trouver les reliques de Saint-Germain de Pibrac, donc dans l'église paroissiale. Pour ceux qui trouveraient ce type de dévotion étrange, voire un peu morbide, qu'est-ce que vous diriez, Jean-Michel Castin ?
Mais donc, c'est une pratique qui a été très tôt adoptée par les chrétiens. C'était une pratique qui était liée au pèlerinage à l'origine, au pèlerinage des martyrs, puisque les premiers saints de l'église primitive étaient des martyrs, c'est-à-dire ceux qui avaient donné leur vie pour la foi. Pour leur foi, et automatiquement, c'est vrai que les gens allaient sur leur tombeau, tout ça, allaient les vénérer, demander leur intercession. Et c'est vrai que c'est une pratique très courante qui a été notamment qui a été très, très pratiquée durant même le Moyen-Âge, tout ça. Alors il faut bien voir que c'est à la fois un gage d'une présence physique du saint ici-bas, avec ses restes, et en même temps aussi une assurance de leur intercession dans l'au-delà. Vous voyez, il y a une double phase dans la pratique des reliques. Ici-bas, bon, puisqu'il y a les restes des saints, et en même temps au-delà, puisque on vient les prier pour qu'ils intercèdent pour nous.
Ça dit aussi un certain rapport au corps du christianisme, hein, puisque
aussi, oui.
La foi des chrétiens, c'est de croire qu'un jour, on ressuscitera, y compris avec nos corps, non ?
Absolument, oui.
Voilà, vous dites ça comme si c'était banal, mais de fait, ça ne l'est point.
Oui, oh, mais ça demanderait une émission à part entière, je pense, la question des corps.
Allez, on va faire une première pause et puis on va essayer de voir deux traits de la vie de cette sainte qui peuvent nous parler. Une femme des béatitudes, Jean-Michel Castin, vous nous proposez ça, et puis aussi cette fragilité assumée qui a été visitée par Dieu et qui en ces temps peut aussi nous parler.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
À la redécouverte de Saint-Germain-de-Pibrac, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Cette petite sainte, s'il y a des petites saints et des petites saintes de notre région, qui est fêtée donc par toute l'Église universelle en ce jour, en ce 15 juin. Et pour nous en parler ce matin, Anaïs Poncin, qui est étudiante et agent d'accueil au sanctuaire Saint-Germain-de-Pibrac l'été, et Jean-Michel Castin, qui est laïc et auteur de différents ouvrages, entre autres Les 10 commandements aujourd'hui, Le chemin de la joie infinie, paru aux éditions Saint-Augustin. J'aimerais recommencer en parlant de la sainteté et en citant à ce sujet le pape François qui, dans son exhortation apostolique Gaudete et Exultate, qu'on a parcouru au long de cette année par une série d'émissions, le premier mercredi de chaque mois, donc, nous parle de la sainteté. Il nous redit, il commence par les mots suivants, ou presque, à propos de Dieu, parlant de Dieu, il veut que nous soyons saints et il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée et sans consistance. Et puis un peu plus loin, le pape François dit la chose suivante, les saints qui sont déjà parvenus en la présence de Dieu gardent avec nous des liens d'amour et de communion. Le propos de cette exhortation apostolique, c'est de faire découvrir la sainteté à frais nouveaux. Il n'y a rien de plus difficile que de parler des saints, je trouve. Comment vous parleriez de la sainteté, Jean-Michel Castin? La sainteté pour les nuls, c'est quoi être saint, en fait?
Mais donc, pris basiquement, la sainteté, ça dépend de Dieu, je veux dire. Donc, automatiquement, on ne devient pas saint à la force du poignet. On devient saint parce qu'on s'attache à Dieu.
Et qu'on se laisse transformer par lui.
Absolument, oui.
Anaïs Poncin, que c'est peut-être une question piège et bien difficile, mais répondez avec votre cœur. Comment est-ce que pour vous, c'est quoi un saint? C'est quelqu'un de très loin et d'inaccessible? Comment vous présenteriez la sainteté si vous deviez le faire?
Si je devais présenter la sainteté, je dirais que la sainteté, c'est la dévotion à Dieu, mais pas seulement. C'est aussi la dévotion pour les autres. En fait, quand on est saint, je pense que l'essentiel, c'est les autres et ce n'est plus nous-mêmes. Et je pense que Saint-Germain en est l'un des exemples les plus flagrants.
Alors, il y a une autre expression du pape François qu'il aime beaucoup, qui est la sainteté des classes moyennes. Il dit entre autres la chose suivante, toujours dans cette exhortation, « J'aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu, chez ses parents qui éduquent avec tant d'amour leurs enfants, chez ses hommes et ses femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieux âgés qui continuent de sourire. » Et puis, je me suis dit que là, ça pouvait parler un peu de Saint-Germain, de certaines âmes dont aucun livre d'histoire ne fait mention, qui ont une influence déterminante au tournant décisif de l'histoire universelle. Brett, les saints cachés. Est-ce que dans le fond, Saint-Germain, on peut utiliser ces expressions, sainteté cachée, classe moyenne,
forcément,
de la sainteté?
Oui, puisque si Dieu n'avait pas fait en sorte que son corps soit resté intact dans sa tombe, automatiquement, personne ne connaîtrait Saint-Germain. Donc, automatiquement, s'il n'y a jamais eu un saint caché dans l'histoire de l'Église, c'est bien Saint-Germain. Oui. Donc ça, à ce niveau-là, comme sainteté cachée, Germain est l'exemple type.
Alors, vous vouliez nous dire que Saint-Germain nous parlait des béatitudes. Toujours si on prend ce texte du pape François qui rappelle que les béatitudes, c'est la carte d'identité du chrétien. Pourquoi est-ce que vous vouliez souligner cet aspect de la vie de Saint-Germain, Jean-Michel Castin?
Mais donc, les béatitudes, c'est quand même assez paradoxal parce que le Christ dit « Bienheureux, vous serez bienheureux si vous pleurez, vous serez bienheureux quand on vous persécute ». Alors, c'est vrai qu'automatiquement, le réflexe naturel de l'homme se dit « Mais non, si on me persécute, je vais pas être très heureux. C'est pas... Si je pleure, ben forcément, c'est que je suis pas heureux. » Si je suis pauvre, oui, c'est vrai que tout le monde cherche un peu de richesse, tout ça. Alors c'est vrai que les béatitudes, on est trop habitué en Église à considérer que c'est normal les béatitudes, mais si vous les relisez littéralement, je veux dire, les béatitudes, c'est une révolution, je veux dire, c'est quelque chose de très paradoxal.
Ça fait pas envie de prime abord, personne n'a envie d'être
pauvre. Disons que oui, on se demande ce que le Christ a voulu dire, je veux dire, c'est vrai, heureux les persécutés, heureux quand on dira toute chose de mal de vous, c'est vrai qu'on se dit, mais qu'a-t-il voulu dire? C'est vrai, il faut se mettre à la place des gens qui découvraient ce que voulait dire le Christ en haut du monde des béatitudes, en Galilée, je veux dire. Et automatiquement, qu'est-ce que nous voyons dans la vie de Germaine? On voit ça, on voit quelqu'un qui a pleuré, on voit quelqu'un qui a été persécuté, on voit quelqu'un qui a rendu le bien pour le mal. Elle est l'incarnation des béatitudes, je veux dire. Vous savez, Saint François de Sales disait « Les saints sont la mise en musique de la partition que sont les évangiles », je veux dire. C'est-à-dire que les évangiles sont la partition et les saints interprètent cette partition comme de même manière que l'interprète joue la partition de Bach, je veux dire.
Donc c'est comme le monde inversé qui tout d'un coup prend cher, c'est ça à vous entendre, hein ?
Ben disons que oui, la signification paradoxale des béatitudes est mise en musique par Sainte Germaine. Heureux les cœurs purs, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux ceux qui rendent le bien pour le mal.
Heureux les affligés qui seront consolés, on pourrait citer aussi. Voilà, si vous deviez choisir une béatitude parmi toutes celles qui sont donc dans ce discours de la montagne, pour Sainte Germaine, vous choisiriez laquelle, Jean-Michel Castrin ?
Oh, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, c'est vrai, bon, c'est la plus belle, parce que c'est sa récompense, c'est la vision de Dieu, je dirais. C'est vrai que Germaine devait avoir le cœur pur, elle devait voir Dieu dans son cœur, je veux dire. Elle le voyait.
Alors l'autre chose que vous vouliez souligner, c'était aussi sa fragilité qui peut nous parler. En lisant donc dans les chroniques de Saint-Germain, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, du sanctuaire, donc un petit mot du recteur, le père Jean-Marie Ruspil. Il rappelait qu'elle a vécu elle-même une sorte de confinement. Pour ceux qui n'auraient pas complètement suivi la première partie, redites-nous Anaïs Poncin, ça veut dire quoi en fait qu'elle vivait, elle, tout au long de sa vie, une sorte de confinement ?
Alors, c'est un confinement donc au XVIe siècle, on va dire, puisque elle était donc elle logeait dans la bergerie. Elle a vécu une vraie distanciation sociale, hein, comme nous avons vécu ces derniers mois, puisqu'elle n'avait pas le droit de vivre ces moments familiales avec donc la famille de son père et ses frères et sœurs. Elle était confinée avec ses moutons et elle vivait une solitude.
Il faut rappeler qu'elle était confinée parce que donc elle avait ses maladies,
oui,
voilà, les écrous,
voilà,
et autres.
Elle était
très contagieuse.
Elle était mise à distance donc puisqu'elle était très contagieuse, oui. Et elle vivait une solitude toute la journée puisqu'elle était avec son troupeau. Elle gardait son troupeau dans les prés toute la journée.
Alors Jean-Michel Castin, pourquoi est-ce que vous vouliez souligner cette fragilité ? En quoi, on va dire, c'est un trait de sa spiritualité ? En quoi ça peut nous parler ?
Mais donc déjà, je voudrais citer le pape François qui disait que l'option pour les pauvres est une catégorie théologique avant d'être culturelle, sociologique, politique ou philosophique. Voilà, le pape François dit ça dans Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile. C'est vrai que l'Église a toujours tenu l'option préférentielle pour les pauvres pour quelque chose de fondamental, parce que les pauvres révèlent Dieu, c'est vrai. C'est vrai que Dieu s'est fait pauvre en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort comme un pauvre, hein, sur une croix. Et c'est vrai que Dieu a voulu nous dire par la pauvreté que la pauvreté révélait Dieu, quelque chose de Dieu. Et c'est vrai que c'est bouleversant de voir qu'une fille qui est complètement ignorée de tout le monde, qui est méprisée, qui est persécutée dans sa propre famille... Cette fille-là, Dieu l'a prise pour son amie, et l'a pris dans sa gloire, et en a fait quelqu'un qu'il faut prier pour obtenir des guérisons, des conseils spirituels. Je trouve que c'est bouleversant que Dieu ait choisi la faiblesse pour nous instruire, nous qui nous croyons cultivés, riches. Voilà, je trouve que c'est quelque chose de bouleversant. Ça dit quelque chose, comme le dit le pape François, ça va bien au-delà de la sociologie ou même de l'économie. C'est quelque chose de théologique. Oui.
Alors aussi, dans un article que vous avez écrit, toujours je crois dans ses chroniques, vous dites « Germaine démontre que les marches sont souvent davantage pétries d'humanité que bien des centres ankylosés dans la graisse de leur supposée importance ».
Oui, voilà. Oui.
Voilà, ce jour-là, vous aviez du cœur à l'ouvrage.
Oui, voilà. Oui.
Et le père Jean-Michel Ruspin de dire aussi qu'aujourd'hui, nous avons tant à lui dire de nos familles, de nos malades, de nos difficultés, de nos attentes, de nos échecs, mais aussi de nos joies. On peut toujours aller se confier à cette sainte parce que c'est l'avantage des plus petits, c'est que dans le fond, il nous intimide pas beaucoup.
Oui, et puis bon, je voulais rebondir sur ce que disait Anaïs tout à l'heure. C'est vrai qu'on parlait de solitude. C'est vrai que Germaine a été quelqu'un de seul, vraiment. Et cette solitude, c'est la plus grande des pauvretés, la solitude, parce que l'homme n'est pas fait pour vivre seul, comme le dit le livre de la Genèse. L'homme est un être de relation. Il ne s'enrichit qu'avec les autres. Il ne peut vivre qu'avec les autres. Et on l'a vu lors de cette crise sanitaire du coronavirus. On a vu toutes les personnes seules dans les EHPAD qui étaient interdites de visite. Bon, j'ai vu que le gouvernement avait levé l'interdiction des visites. Mais toutes ces personnes qui étaient laissées seules, qu'on n'avait pas le droit de visiter, c'est vrai que c'était quelque chose de terrible, je veux dire. Et c'est vrai que là, on ne peut que prier quelqu'un qui connaît vraiment la solitude, parce que je pense qu'il n'y a aucun saint n'a connu la solitude comme Germaine l'a connue, je veux dire. Et je pense que c'est, si y a une patronne universelle de la solitude, je pense que c'est elle.
Si vous deviez juste reprendre la citation et la redonner
oui.
pour qu'on comprenne comment l'Église, en fait, ou le pape François passe, on va dire, de l'exemplarité de ses figures à cette option préférentielle pour les pauvres, comment le lien se fait ? Redites-nous
voilà,
la citation.
Je recite le pape François. L'option pour les pauvres est une catégorie théologique avant d'être culturelle, sociologique, politique ou philosophique.
Alors,
numéro 195 de l'exhortation
Evangelii Gaudium, voilà, qui était donc sa première exhortation apostolique. Oui. Donc on comprend que ces saints, c'est comme la musique de la partition qu'est l'Évangile.
Voilà.
Saint-Germain en est un exemple emblématique.
Voilà.
Comment est-ce qu'on passe à cette option pour les pauvres ? Redites-nous, ça veut dire quoi ?
Eh bien, l'option pour les pauvres, c'est comprendre que les pauvres nous révèlent Dieu, parce que Dieu s'est fait pauvre, comme le dit saint Paul, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Et automatiquement, c'est vrai que la pauvreté, les pauvres révèlent Dieu, comme le disait le fondateur d'Athée des Carmondes, là, le père Joseph.
Joseph Wresinski.
Voilà, où il disait que les pauvres sont nos maîtres, et les pauvres sont des révélateurs de Dieu, oui. C'est vrai que c'est bon. Après, il faudrait toute une émission pour développer, mais c'est vrai que c'est dans leur fragilité. Puis les pauvres, je veux dire, c'est comme les béatitudes, ils attendent tout de Dieu puisqu'ils sont pauvres. Et automatiquement, étant pauvres, je veux dire, comme ils attendent tout de Dieu, ils ne font pas obstacle, je veux dire, à Dieu. Et donc automatiquement, Dieu qui est l'être infini, je veux dire, les enrichit de toute sa richesse. Donc automatiquement, plus on est pauvre, plus on est riche. En fait, c'est l'exemple de saint François et tout ça. Saint François qui a été le chantre de la création, et pourtant qui était un ascète, qui s'est fait pauvre parmi les pauvres, et pourtant c'est lui qui a chanté la joie de la création. C'est vrai que joie et pauvreté ne sont pas contradictoires.
On va faire une deuxième pause, et puis on va faire une petite balade sur place avec Anaïs Poncin pour donner envie aux uns et aux autres de venir, de participer, si ce n'est pas en tout cas à ces fêtes, donc à la dévotion qu'il y a autour de Saint-Germain de Pibrac, et puis on donnera quelques pistes à la fin pour faire plus connaître avec cette sainte. Je rappelle entre autres le titre de l'un de vos ouvrages, Jean-Michel Castaing, « Les 10 commandements aujourd'hui, le chemin de la joie infinie » paru aux éditions Saint-Augustin.
Thank you.
Radio Présence à Pau 96. Vivante Église, Emmanuel Pella.
À la redécouverte de Saint-Germain-de-Pibrac, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce jour où l'Église universelle fête cette sainte du pays toulousain. Nous sommes avec Jean-Michel Castin, qui est laïque et auteur de différents ouvrages. On peut en citer un autre qu'on n'a pas cité jusque-là, Pour sortir du nihilisme, paru aux éditions Salvator, et Anaïs Poncin, qui est étudiante et agent d'accueil au sanctuaire Saint-Germain-de-Pibrac. Pour ceux qui ne connaissent pas les lieux, à la fin, et leur donner envie de venir ou d'aller un peu plus loin, cette dernière partie, donc, faites-nous une balade, Anaïs Poncin. Quand on arrive donc dans l'ouest de Toulouse, on trouve une grande basilique. Parfois, on est surpris de trouver cette si grande basilique en cet endroit. Il y a différents lieux. Si vous deviez nous balader en hélicoptère ou en drone, qu'est-ce qu'on y voit et qu'est-ce qu'on propose comme chemin sur place ?
Alors, ce qui est assez emblématique et intéressant à Pibrac, c'est le face-à-face entre la basilique Sainte-Germaine et l'église Sainte-Marie-Madeleine, ou Allée Sainte-Germaine. Donc, ces deux édifices sont séparés par une longue esplanade où la nature a ses droits. On y trouve des arbres centenaires qui sont dressés tout le long. Et derrière eux, nous voyons apparaître donc les deux frontispices de ces deux bâtiments religieux. Étant pibraquaise, j'ai toujours pensé que ce face-à-face était assez symbolique, puisque quand on va à l'église, on va à la messe et on reçoit l'Eucharistie. Et ensuite, on se rend compte de ce que cela devient dans nos vies. Finalement, ce face-à-face, c'est un peu l'Eucharistie qu'on reçoit à la messe, et la sainteté qui se regarde, et la sainteté vers laquelle on chemine. Donc à 2 km.
Alors de... si on commence par le grand bâtiment, oui. Donc il y a l'église paroissiale. L'église paroissiale, c'était l'église où allait Saint-Germain,
voilà,
tout simplement.
Voilà, c'est ça. C'est
qui n'a pas bougé, qui est dans son jus, comme on dit, c'est
non.
ça.
Alors c'est l'église Sainte-Marie-Madeleine qui a été édifiée donc du 11 au 13e siècle. Il y a une chapelle donc où se trouvent les reliques de Saint-Germain, donc une chapelle en son nom.
Donc il y a une chasse, c'est ça.
Une chasse, oui. Voilà. Et les reliques se trouvent dans la chasse, donc on ne peut pas les voir. Ensuite, dans la basilique, donc c'est d'un style romano-byzantin avec des dimensions assez grandioses. Donc on est aussi surpris aussi par la petitesse entre guillemets, l'humilité de la vie de Saint-Germain et les dimensions grandioses de cette basilique. C'est peut-être ça aussi la sainteté, c'est trouver la grandeur de l'amour de Dieu dans le petit, dans le miséricordieux.
Il faut dire aussi donc que ce sanctuaire a été érigé comme sanctuaire. Donc elle a été élevée au rang de basilique en 2011, c'était par Benoît XVI, par décision du pape François. Alors si on continue la balade, on arrive dans d'autres lieux, et là on rentre plus peut-être dans le quotidien de cette... l'ordinaire de la vie de cette sainte. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir ?
Alors à 2 km donc, de la basilique et de l'église se trouve la maison de Saint-Germain. Donc c'est la métairie qui a été conservée depuis le XVIe siècle, avec un grand parc et une très grande croix qui se trouve en face de la métairie. Et entre l'église et la maison de Saint-Germain se trouve un chemin de croix qui passe par la fontaine de Saint-Germain où Germaine venait apporter son troupeau pour donner à boire à son troupeau.
Alors quand on rentre dans la métairie, pour y être allé, on continue à pousser la même porte que celle qu'elle poussait.
Tout à fait.
et voir presque la soupente où elle pouvait dormir, c'est
oui,
ça ?
Oui, nous vivons ce qu'elle a vécu, nous voyons son quotidien et sa vie ordinaire. Nous poussons une petite porte en bois et nous trouvons dans la bergerie, le sol encore en terre battue, et nous voyons le petit escalier, le petit endroit où elle dormait quand elle était jeune.
C'était du plus simple qui soit, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous, Anaïs Pansin, qui passez du temps, au moins l'été, sur place, qui vient à Pibrac et puis que vous en disent les gens qui passent ?
Alors, tout d'abord, ce sont des pèlerins du chemin de Saint-Jacques qui passent par Pibrac.
Donc, c'est la route de la Via Tolosa, voilà. C'est ça ?
C'est ça. Ce sont des personnes, j'étais toujours émue de voir le rayonnement de Saint-Germain dans le monde entier. Par exemple, nous recevons des mails parfois de personnes qui veulent venir à Saint-Germain, qui viennent des États-Unis par exemple ou d'Angleterre et qui connaissent Saint-Germain et qui veulent venir à Pibrac. Donc tout d'abord, ensuite les pèlerins du chemin de Saint-Jacques qui sont toujours... intéressés par la vie de Germaine et notamment qui sont...
Intéressés et surpris, non, on imagine,
oui,
un peu.
Oui, surpris et étonnés par exemple, la basilique qui est quand même un édifice assez grandiose. Et ensuite viennent aussi des personnes qui sont seules, des personnes malades, des personnes qui viennent se recueillir et prier Saint-Germain qui a vécu, malgré la différence des siècles, les mêmes souffrances que nous.
Allez, si on redit un mot de la dévotion aux reliques, puisque donc quand on rentre dans cette petite église paroissiale, il y a donc une chapelle attenante sur la droite, on trouve cette châsse assez impressionnante. Jean-Michel Castin, vous en avez parlé au début de l'émission, mais quelle est la juste manière de se positionner et par rapport à ces reliques et de demander son intercession ?
Mais disons que les reliques, bon, sont le fait que les gens savent que pour que Germaine ait vécu la vie qu'elle a vécue, elle devait effectivement être l'amie de Jésus-Christ et que donc l'Esprit Saint était en elle, donc automatiquement son corps a été investi par l'Esprit Saint, donc automatiquement... Les gens, spontanément, supposent que ce corps a gardé quelque peu des traces, effectivement, de la présence divine.
Il n'y a rien de magique, en fait.
Non, il n'y a pas rien de magique. En revanche, et c'est aussi une preuve de fidélité à la personne, à l'intercession de qui on se voue, je veux dire. Hein. Donc, automatiquement, c'est vrai que c'est vrai qu'il peut y avoir quelquefois des dérives ou une démarche magique, mais bon, ça, c'est aux personnes du sanctuaire de faire comprendre, effectivement, il ne s'agit pas de... C'est une dévotion très ancienne dans l'histoire de l'Église, comme je le disais, c'était lié au pèlerinage.
Et tu sais s'il y a des reliques, par exemple, entre autres, au sanctuaire Saint-Cernin, et où il y avait pèlerins en son temps de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui. Si on doit finir par quelques pistes de lecture, qu'est-ce que vous nous donneriez comme piste de lecture ? On va commencer avec vous, Anaïs Pansin.
Vous pourrez venir au magasin Saint-Germain voir les nombreux ouvrages qui existent au sujet de Saint-Germain.
On imagine qu'il y a une grande littérature, mais si vous deviez en choisir un ou deux, ça serait quoi ?
Alors, ce serait la BD de Thierry Levaux qui est pour les petits comme pour les grands au sujet de la vie de Saint-Germain et qui raconte avec précision sa vie. Et sinon,
s'appelle ? Comment s'appelle-t-elle ?
Saint-Germain de Pibrac.
D'accord.
De Thierry Levaux. Et ensuite, deux biographies d'Anne de Pindré, donc Saint-Germain de Pibrac, du même nom, et la Germaneta.
Vous vouliez nous citer un autre ouvrage ?
J'ai pensé à l'ouvrage de Monseigneur Jean-Philippe Nau, qui est évêque de Digne, ouvrage qui s'appelle L'audace de l'Évangile. Un évêque au cœur de la France rurale. Bon, Germaine a vécu dans la ruralité, puisque Pibrac était un petit village avant qu'il ne devienne une grande cité de l'Ouest toulousain. Et je pense que cet ouvrage est très intéressant parce qu'il nous dit les défis actuels de l'Évangile, parce que bon, Germaine, c'est l'Évangile mis en musique, comme je le disais. Et aussi, cet ouvrage est très intéressant parce qu'il soulève la problématique de savoir s'il faut, oui ou non, avancer l'âge de la confirmation. Parce qu'actuellement, c'est vrai que la confirmation étant donnée très tard, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui zappent ce sacrement. Et le fait que ce sacrement soit moins donné qu'auparavant, c'est vrai que c'est une source de déchristianisation.
L'audace de l'Évangile, donc c'est une manière aussi de signifier que là aussi, ce qu'il y a apparemment de petit, en tout cas, ou de plus pauvre dans la pastorale d'aujourd'hui est promis à un grand avenir. C'est paru aux éditions Artege. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous faire découvrir cette belle sainte qui, comme tous les grands saints, nous laisse un peu interdits. Sainte Germaine de Pibrac, qui pour rappel donc est fêtée aujourd'hui, ce 15 juin, à 10h30, messe présidée par Monseigneur Le Gall, et cet après-midi, 14h30, adoration. On peut aussi, il faut le dire, maintenant se promener tout à fait tranquillement et normalement dans les différents lieux de ce sanctuaire pour cette petite balade qu'Anaïs Ponsin a esquissée. Merci beaucoup. Cette émission merci. A été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.